Il y a des sujets dont on entend parler tout le temps, qui sont très à la mode et dont on ne comprend rien. Et c'est le cas, je crois, de la physique quantique. On en entend parler dans le développement personnel, on en entend parler dans l'informatique, on en entend parler dans la blockchain, on en entend parler un peu partout. Et pourtant, malheureusement, ça nous semble un petit peu flou, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Bobroff, qui est un physicien, qui est un formidable vulgarisateur scientifique français, qui travaille entre autres et qui est professeur à l'Université Paris-Sud à Saclay, et qui va nous expliquer vraiment ce que c'est que la physique quantique, nous expliquer dans les détails à quoi ça a déjà servi et à quoi ça va pouvoir servir demain. On va aussi parler évidemment du changement climatique, parce qu'on pourrait se dire que la technologie va pouvoir nous sauver et que la physique quantique va pouvoir trouver des solutions. Donc vous entendrez sa réponse. C'est une discussion qui est passionnante parce que extrêmement accessible sur un sujet qui a priori ne l'est pas. Donc je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour Julien, est-ce que ça va bien aujourd'hui ?
Ouais, ça va très bien, bonjour.
Bonjour. On parle beaucoup de physique quantique. Et je pense que la très 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 grande majorité de la population française n'a strictement aucune idée de ce que c'est. De ce que j'ai compris, c'est l'infiniment petit. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous pouvez commencer à m'expliquer ou à nous expliquer ce que c'est que la physique quantique ?
Oui, alors c'est vrai que ça fout la trouille, hein, la physique quantique. Quand on dit le mot quantique, tout de suite, ça appelle plein de fantasmes. C'est pas si compliqué que ça. Hein. La physique quantique, c'est juste les lois du monde à petite échelle. On s'est rendu compte, il y a un peu plus de 100 ans, hein, c'est déjà vieux, que si on regardait le monde à l'échelle d'un atome ou à l'échelle d'une molécule ou d'un grain de lumière, en fait, les lois dont on avait l'habitude, qu'on pensait avoir comprises jusque-là, ne fonctionnent plus. Et il y a de nouvelles lois, de nouveaux comportements de la matière. Donc c'est juste la physique à petite échelle. Alors souvent on dit l'infiniment petit, alors c'est pas si infiniment petit que ça, hein. On peut avoir des effets quantiques à l'échelle du millionième de mètre, alors ça semble petit mais c'est très gros à l'échelle de la physique.
Ok, donc c'est le tout petit. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça remet en cause les lois de la physique. C'est ça, si je comprends bien.
Alors oui, ça reste de la physique, c'est-à-dire qu'on continue à la faire de la même façon, avec les mêmes processus, mais on s'est rendu compte que les lois elles-mêmes, la façon dont on devait décrire par exemple un atome ou un noyau d'atome ou un électron, n'avaient plus rien à voir avec ce qu'on utilisait habituellement quand on décrivait par exemple une balle de tennis. En gros, une balle de tennis quantique, donc une balle de tennis à toute petite échelle, bah, ne se comporte pas comme juste un corps matériel comme on en a l'habitude.
Alors ça veut dire quoi? Comment elle se comporte?
Ah, si on était capable de la voir, alors moi j'aime bien toujours me dire, mais si j'étais un petit bonhomme et que je rentrais dans la matière, mais qu'est-ce que je verrais concrètement? Alors déjà, on verrait des choses très étranges, hein, c'est-à-dire que cette espèce de balle de tennis, si elle devenait quantique, donc on va prendre un atome par exemple, bah, il se comporterait comme une espèce de nuage. Vous voyez quelque chose qui est un peu là sans être là tout à fait, hein. Déjà vous voyez que ça devient compliqué quand je le raconte. Mais bon, il faut imaginer en gros que c'est un objet qui occupe toute une zone de l'espace, mais pas de façon très matérielle. C'est-à-dire que quand on va essayer de mesurer cette balle de tennis quantique, au moment où on va la mesurer, là, soudain, elle va se réduire en un point et redevenir une vraie petite balle de tennis. Donc, je vous le redis, hein, imaginez un électron, par exemple. Tant que vous ne le mesurez pas et que vous le laissez tranquille, c'est une espèce de nuage. Nous, on parle de fonction d'onde. Donc, imaginez-nous comme un nuage un peu immatériel qui occupe toute une zone de l'espace, par exemple une sphère. Et puis au moment où vous essayez de le mesurer, de ramener, je sais pas quoi, une pince électrique ou une loupe ou quelque chose pour le regarder, eh bien soudainement, ce grand nuage va se réduire en un seul point, comme une petite goutte d'eau. Et vous, ce que vous allez voir, c'est un petit électron bien matériel, bien ponctuel, à un endroit particulier. Mais dès que vous arrêtez et que vous le laissez tranquille à nouveau, il réoccupe toute la zone de l'espace. En gros, c'est ça qui se passe à petite échelle. Ça, c'est si on regarde un objet matériel. Et de ce fait, si on accepte cette idée-là, hein, qui est déjà hyper troublante, hein, c'est que cet objet, c'est une espèce d'onde immatérielle qui occupe toute une zone de l'espace, alors là, il y a plein de nouvelles propriétés qui vont découler de ça. Si on envoie cet objet contre un mur, il peut de temps en temps passer à travers le mur. Si on essaie de le mesurer, il va se comporter de façon étrange. Il va pouvoir se dédoubler. Il va pouvoir être intriqué avec d'autres objets. Donc, il va y avoir tout un tas de propriétés très étranges qui vont apparaître juste parce que dès le départ, un objet quantique, c'est pas juste un objet matériel, c'est pas juste une masse.
Et en même temps, si je ne me trompe pas trop, tous les objets du quotidien, y compris nos corps, sont constitués d'atomes, donc enfin de molécules et d'atomes. Donc en fait, potentiellement, ce que vous dites, c'est que, en fait, on est, enfin, j'exagère un petit peu, mais tous les objets autour de nous, on est des nuages, quelque part. Enfin, on est composé de nuages, en fait.
Alors là, on est sur une pente très glissante qui va aller vers les pseudo-sciences et d'états de religiosité et autres. Alors, faisons attention à ce qu'on dit. Donc, je reprends. Effectivement, il y a ce paradoxe incroyable qui est que je suis en train de vous dire que tous les atomes qui composent votre corps sont eux-mêmes composés d'électrons qui sont ces espèces de nuages immatériels, et pourtant, nous, on n'est pas du tout immatériels, quoi. Je ne peux pas passer ma main à travers un corps.
A priori, alors, non.
Il y a plein de raisons à ça. La première chose qu'il faut comprendre, et c'est la plus importante peut-être, c'est que quand on va prendre plein de ces objets quantiques et qu'on va les placer les uns à côté des autres, et c'est bien ça qu'on fait quand on prend par exemple un corps humain, au bout d'un moment, tous ces effets très immatériels et autres vont s'annuler. C'est-à-dire que si je regardais un seul atome, ça reste exactement ce que je vous ai décrit, cette espèce d'onde immatérielle. Mais quand j'en mets plein les uns avec les autres, tous ces effets-là, je ne les vois plus à grande échelle. Ils disparaissent et on redevient un bon gros objet massif.
D'accord.
Donc si on veut garder toutes les étrangetés du monde quantique, hein, je vais les appeler les étrangetés, tout ce qui échappe à notre intuition, ces espèces d'ondes, ces espèces d'effets tunnels, de paradoxes, etc., etc., il faut garder très peu d'objets quantiques. Ou alors, si on a un gros objet quantique, il faut le protéger à fond. Il faut essayer de le mettre dans le noir, dans le vide, à très basse température. Donc, pour arrêter tout de suite toutes les fausses déductions, à grande échelle, dans le monde qui nous entoure, je ne verrai pas d'effet quantique. Mon cerveau, par exemple, il ne va pas réfléchir avec de la physique quantique. La porte de ma chambre, je ne vais pas pouvoir passer à travers si je cours très vite. Il faut absolument que je regarde un seul des objets qui le composent pour revoir ces effets apparaître.
D'accord. Et là, une question peut-être un peu bête, mais à quoi ça sert de descendre au niveau de l'atome ? Qu'est-ce qu'on peut créer à partir de ça ? C'est quoi les usages de la physique quantique ?
Ouais. La première réponse, c'est même si ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. Parce que après tout, c'est une des grandeurs, je trouve, de l'être humain d'essayer de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Mmh. Et en gros, comprendre ce qui se passe à petite échelle, c'est une grosse partie du monde qui nous entoure. Donc, la physique quantique s'était juste arrêtée à déjà comprendre les lois du monde à petite échelle et à se rendre compte qu'à petite échelle, il se passe des choses absolument hallucinantes, moi, ça suffirait à mon bonheur. Alors, il se trouve que, évidemment, derrière, ça a été, disons, la science qui a eu le plus d'applications, je pense, de l'histoire du 20e et du 21e siècle. Okay. Alors, pourquoi ça ? C'est parce que, une fois que les physiciens ont compris comment fonctionnaient les électrons, comment fonctionnait la lumière, comment fonctionnaient les atomes, et bien là, ils se sont dit, maintenant, on peut commencer à inventer. On peut inventer des nouveaux matériaux, on peut inventer des nouvelles lumières, on peut inventer des nouveaux dispositifs. Et là, ils se sont lâchés. Et donc, 20 ans après, ils ont inventé le transistor, qui maintenant fait toute l'électronique moderne. Hein, de l'ordinateur que j'utilise en ce moment, il y a 100 millions à 1 milliard de transistors dans le microprocesseur. Et ça, c'est grâce à la physique quantique. Ils ont inventé le laser. C'est une lumière complètement artificielle inventée par les physiciens de la quantique. Ils ont inventé les LED. Hein, les LED qui permettent d'avoir cet éclairage qui coûte très peu d'énergie à l'humanité. C'est une invention de la quantique, etc., etc. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient compris les lois de la matière à petite échelle, bah, ça leur permettait de domestiquer ces lois et de les retourner pour en faire un peu ce qu'ils voulaient. Par exemple, contrôler les électrons dans un solide. Et ça, ça permet de faire toute l'électronique. Donc la physique quantique, en fait, c'était la première étape pour beaucoup des technologies qui nous entourent. Tout votre smartphone est composé de physique quantique sans que vous vous en rendiez compte.
C'est hyper troublant parce que d'un côté, vous nous dites que tous les objets sont composés d'atomes. Donc tout est quantique quelque part, enfin à micro-objet. Et en même temps, que ça a des applications. En fait, on peut utiliser cette connaissance plutôt que technologie, pour justement faire de la technologie, comme les LED, les lasers, les transistors, donc les microprocesseurs, etc. Et en fait, c'est parce qu'on a besoin de descendre vraiment dans le détail, de descendre vraiment en profondeur.
Oui, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que je vous dis, je vous arnaque, je vous dis, à petite échelle, il y a des effets hyper étranges, mais à grande échelle, il n'y a aucun effet étrange. On a quand même réussi à fabriquer des trucs à grande échelle en utilisant les trucs à petite échelle.
C'est ça.
Alors là, on se dit, là, il nous arnaque quelque part. Alors non. Prenons un exemple très simple, celui du transistor. Parce qu'après tout, c'est la plus grande découverte, enfin, la plus grande invention du XXe siècle, clairement, du point de vue de ses impacts. Qu'est-ce que c'est l'histoire du transistor ? On a des physiciens qui, dans les années 40-50, essayent de remplacer le tube à vide, qui était ce qui était utilisé à l'époque pour faire des ordinateurs et qui était une catastrophe, hyper fragile, hyper gros, hyper lourd. Et donc, ils se disent, il faudrait qu'on invente d'autres genres d'interrupteurs. Parce qu'un ordinateur, en gros, c'est des petits interrupteurs qu'on contrôle. On laisse passer ou on laisse pas passer le courant et ça permet de faire des 0 et des 1. Et donc, ils se disent, mais alors, si on va à l'échelle de la quantique et que je regarde un seul atome, on pourrait faire des choses, mais on en est incapable à l'époque technologiquement. Par contre, les lois de la quantique me permettent de comprendre comment marche un électron dans un atome. Et si je prends un petit bout de métal, ça me permet de comprendre le comportement d'un électron dans ce métal, un seul électron. Et cet électron, c'est une espèce d'onde qui se balade et puis qui a en particulier des niveaux d'énergie. Il a des espèces de paliers discontinus. Quand il se balade dans un métal, il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne se balade qu'à certaines vitesses et à certaines énergies. Et ils comprennent ça dans les années 1930 à peu près.
D'accord.
Une fois qu'ils ont compris ça, ils se disent, bon, alors est-ce qu'on pourrait se fabriquer nous-mêmes un métal sur mesure ou dans lequel on puisse choisir si on veut faire passer ou pas le courant ? Alors ils prennent un bout de métal, mais là, pour le coup, évidemment, c'est un bout qui fait 1 cm³. Donc, où il y a des milliards de milliards de milliards d'électrons, donc il n'y a plus d'effet quantique global. Le métal, il ne se comporte pas comme une onde. Par contre, chacun des électrons dans le métal continue à être cette petite onde avec ses petits niveaux d'énergie. Et donc, les physiciens font des calculs très théorique au début, en se disant, mais alors si j'ai plein d'électrons dans ce bout de métal, puis que je rajoute tel atome, que j'enlève tel atome, que je mets tel matériau à la place de tel autre, est-ce que je peux pas me débrouiller pour contrôler exactement comme j'en ai envie ces électrons avec leur niveau d'énergie quantique et leurs propriétés quantiques pour faire ce que j'ai envie? Et ils arrivent juste à la sortie de la guerre, hein, c'est Bardeen, Shotley et Brattain qui arrivent à faire ça. Ils arrivent à construire une sorte de petit sandwich à base de matériaux qui sont des semi-conducteurs, hein, c'est du silicium en gros, hein, c'est ce qu'on connaît maintenant, la Silicon Valley, c'est bien ça, ouais. Dans lequel ils vont arriver à domestiquer, à contrôler les niveaux d'énergie de chacun des électrons. Et donc ensuite, évidemment, ils ont plein d'électrons tous ensemble, mais qui maintenant se comportent un peu comme ils en ont envie. Donc pour le dire plus simplement, c'est en comprenant très finement ce qui se passait au niveau d'un seul électron et ses propriétés quantiques, qu'ils arrivent finalement à contrôler l'énorme armée d'électrons qu'il y a dans le transistor et à lui faire faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est en comprenant ce qui se passait à toute petite échelle qu'ils ont pu ensuite remonter à plus grande échelle et à contrôler le bout de métal et en fabriquer finalement un transistor.
D'accord. Et alors, du coup, ce que vous disiez, et c'est vachement intéressant, c'est qu'un électron, c'est une onde.
Ouais.
Donc, c'est comme une vague un peu. C'est ça, en fait.
Exactement. C'est comme une vague. Tant qu'on le laisse tranquille, il se comporte comme une petite vague. Et puis, quand on le mesure, il se réduit soudainement. Et nous, on a l'impression que, bah non, c'est une petite bille, l'électron. Et donc, voilà. Le laisse tranquille, il se comporte comme une vague.
J'aimerais bien comprendre. Je suis désolé, hein, c'est des questions très, très basiques. Mais pour le coup, j'y connais rien. Et je pense que les gens qui nous écoutent n'y connaissent pas grand chose. Mais pourquoi, quand on s'en rapproche ou quand on essaye d'en faire quelque chose, il se modifie?
C'est le truc le plus troublant, peut-être, de la physique quantique. C'est que la chose dont on avait l'habitude avec la physique normale, c'est que quand on mesurait un phénomène, ça changeait pas le phénomène. Pour vous le dire très simplement, quand Galilée va lâcher une pierre du haut de la tour de Pise, eh ben on pourrait la prendre en photo, la filmer ou la chronométrer, ça changerait pas la façon dont elle tombe. Et c'est ça qui permet de faire de la physique, c'est-à-dire qu'on va mesurer des phénomènes sans interagir avec eux. En physique quantique, ça n'est pas vrai. En physique quantique, c'est au moment où on va mesurer un phénomène que ça va changer sa nature. Alors pourquoi ? C'est quelque chose qu'on commence à comprendre depuis quelques dizaines d'années, on va dire, c'est que quand on mesure par exemple un électron, on est obligé à un moment donné d'utiliser un outil de mesure. C'est un peu évident ce que je vais dire. Et un outil de mesure, c'est quoi finalement ? C'est arriver à mesurer quelque chose à la taille de l'électron qui est tout petit et le ramener à ma taille à moi pour que je mesure un truc sur un écran à un moment donné, je mesure une valeur. Donc, un outil de mesure, il est nécessairement gros. Il est gros parce qu'à la fin, il doit être à l'échelle de mon laboratoire. S'il reste à l'échelle de l'atome, moi je vois rien, il me sert à rien. Okay. Donc un outil de mesure, il va me faire passer de mon échelle à moi à la toute petite échelle. C'est ça son job. D'accord. Ça veut dire que quand l'outil de mesure, il arrive près de l'électron, lui-même, l'outil de mesure, il est composé de plein d'atomes ou de plein de grains de lumière. Il est très gros. Donc vous avez une situation où vous avez un seul électron tout petit, très délicat, quantique, cette petite onde, qui se retrouve face à des milliards de milliards d'atomes qui sont mon outil de mesure. D'accord. Par exemple, je ne sais pas, une pointe d'un oscilloscope. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que cette petite onde quantique, voyant tous ces atomes face à elle, elle va essayer d'interagir avec chacun de ces atomes. Nous, on va dire s'intriquer. C'est une façon élégante de dire interagir. D'accord ? Donc, elle essaie d'interagir avec cet atome, tous les atomes de l'instrument. Et ça, en quelque sorte, ça l'épuise et ça l'empêche de garder son caractère onde, délicate, protégée. Elle est plus protégée, tranquille, toute seule. Maintenant, elle interagit avec des milliards de milliards d'atomes et ça, en quelque sorte, ça la réduit, ça l'empêche de continuer à être quantique et c'est ça qui va faire qu'elle se réduit. Par contre, la façon qu'elle a de se réduire, ça, on ne l'a pas bien compris encore. Ça reste un des grands mystères de la physique quantique. Elle se réduit, on a l'impression que c'est complètement aléatoire. Mais le fait qu'elle se réduise, c'est lié au fait qu'on l'a forcée à interagir avec plein d'atomes. Alors ça, c'est important quand tu dis ça, parce qu'il y a plein de dérives d'interprétations complètement fausses de la physique quantique, de gens qui disent, par exemple, c'est la conscience humaine qui fait que l'onde se réduit. Ce n'est pas du tout la conscience humaine, c'est le fait qu'on a dû utiliser un gros instrument. Mais le gros instrument, il n'a pas besoin d'avoir de conscience. Si c'est un appareil photo, si c'est une caméra, si c'est un rayon laser, c'est exactement la même histoire. L'humain n'a rien à voir dans cette histoire de particulier. C'est juste que dès que vous prenez un objet qui a un très beau comportement quantique, protégé, délicat et étrange, si vous le mettez en contact avec un gros machin, ça va lui faire s'arrêter d'être quantique, pour le dire clairement. Et on appelle la décohérence. C'est ça le nom savant pour ça.
Ok, très clair. Une chose qu'un physicien quantique m'avait dit, et je serais curieux d'avoir ton avis, ton explication, il m'a dit finalement, comme on est tous constitués de molécules et d'atomes, et que majoritairement il y a du vide entre les molécules et les atomes, en fait quelque part les objets, nous y compris, sont principalement du vide, ce qui est assez perturbant comme idée.
Oui, alors soyons clairs, donc c'est complètement vrai. Si je prends un atome, c'est 99,9% de vide, hein, puisqu'il y a un noyau au milieu qui est tout petit, hein, qui fait un cent millième de la taille de l'atome, donc c'est vraiment petit, dans lequel il y a quasiment toute la masse, et puis il y a quelques électrons autour qui eux sont ridicules, parce que si je les mesure, ils n'occupent pas de place en gros. Donc on pourrait se dire, mais c'est vide ce machin-là, en gros, puisqu'il n'y a que un cent millième de l'atome qui est occupé. Alors c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est vrai, Et c'est immédiatement troublant parce que si je me regarde, je suis pas vide, je suis pas transparent, je passe pas à travers les murs.
Non.
Donc, en fait, c'est assez beau. C'est une raison quantique qui fait que je passe pas à travers les murs. Et cette raison quantique, elle est un peu subtile. Ça s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? C'est que, vous vous souvenez, donc mon électron, c'est une espèce de nuage, hein, qui occupe tout le volume de l'atome. OK? Mais si je le mesure, il se réduit soudainement à un point. Tant que je le mesure pas, c'est tout ce nuage un peu immatériel. Il y a une règle qui gouverne ce nuage, qui gouverne tous les électrons dans le monde et dans l'univers. C'est la règle de Pauli, hein, le principe d'exclusion. C'est quoi? C'est que un électron, ce nuage-là, n'est pas capable d'être au même endroit qu'un autre électron si ils sont pareils. Si deux électrons ont exactement la même forme, les mêmes caractéristiques, tout pareil, ils s'excluent l'un l'autre. L'image que j'aime bien, c'est vous allez dans une soirée, ben, si vous avez un frère jumeau, il n'a pas le droit d'aller à la même soirée. Vous vous excluez l'un l'autre. Okay?
D'accord.
Par contre, s'il y a d'autres électrons différents, ils peuvent être au même endroit. Donc, dans un atome, par exemple, il y a plein d'électrons très différents. Hein, un atome, je ne sais pas, de cuivre, d'oxygène, il y a des dizaines d'électrons. Et ils sont tous les uns dans les autres au même endroit, sans aucun problème. Tous les nuages s'interpénètrent. Par contre, dans un atome, on n'a pas le droit d'avoir deux électrons absolument identiques. Ils sont tous différents les uns des autres. Et c'est ça d'ailleurs qui fait le tableau périodique, qui fait que quand je rajoute des électrons, bah, les atomes ils changent de nature parce qu'à chaque fois je dois mettre un électron différent, donc l'atome il change. D'accord ? C'est pas toujours les mêmes atomes, juste un peu plus gros. Donc ça c'est un atome. Si je prends deux atomes maintenant l'un à côté de l'autre et que j'essaye de les faire se rentrer l'un dans l'autre, en gros, eh ben ils peuvent pas parce qu'ils contiennent tous des électrons un peu identiques qui eux vont pas arriver à rentrer les uns dans les autres. Donc ma main par exemple peut pas passer à travers une table. Hein, j'essaie de faire l'expérience là. Elle passe pas à travers, c'est mon expérience préférée moi de la physique quantique que je remonte à tout le monde, parce que les électrons de ma main excluent ceux de la table. Donc même si ma main c'est quand même essentiellement du vide, bah, ces espèces de nuages très vides, ils ont quand même une propriété particulière qui fait qu'ils aiment pas s'interpénétrer. Donc d'abord mon corps, même s'il est essentiellement du vide, il est pas capable de passer à travers autre chose, parce que cette autre chose, elle aussi essentiellement vide, elle a quand même ces électrons-là qui s'excluent. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est assez marrant, c'est mais pourquoi on n'est pas transparent? D'accord, parce que même si on a ces espèces de nuages et tout, ils occupent pas grand chose ces nuages et on devrait être transparent. C'est une question qui m'a été posée récemment sur TikTok. J'ai fait mon entrée sur TikTok et j'avais raconté ce truc de la main qui traverse la table et la première question des TikTokers c'était mais pourquoi on n'est pas transparent dans ces cas-là? Et la réponse à ça c'est qu'en fait ça veut dire quoi être transparent? Ça voudrait dire que la lumière peut passer à travers moi. D'accord. Et la lumière c'est des petits grains quantiques, c'est des photons. Et quand un photon arrive sur ces espèces de nuages d'électrons, en général il rebondit. Le nuage est capable de le faire rebondir en masse. De temps en temps, le nuage l'absorbe, c'est-à-dire qu'il l'avale, et dans ces cas-là, ça change la forme du nuage, mais ça réduit jamais le nuage. Donc, quand la lumière arrive sur mon corps, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rebondit. Certains grains de la lumière sont absorbés par mon corps, ce qui peut légèrement me chauffer, par exemple, et qui fait que je vais avoir certaines couleurs plutôt que d'autres. Donc, en fait, pour résumer, moi-même, être humain, je suis essentiellement vide, mais je suis quand même pas transparent et je passe pas quand même à travers les autres objets. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on appelle vide dans cette histoire.
Ouais, et du coup, on peut se toucher.
On peut toucher les autres. Ouais, voilà, on n'est pas comme d'un liquide ou comme un espèce de nuage, quoi.
C'est ça. En fait, parce que du coup, là, pour la table, je comprends bien, mais deux corps humains...
Dans deux corps humains, c'est pareil, des atomes avec des électrons. Dès qu'on essaie de toucher un autre machin qui contient des atomes, ça va s'exclure. Alors, c'est bien foutu, hein, c'est parce que la façon dont les atomes sont construits, c'est toujours de la même manière. Hein. Le mode d'emploi pour fabriquer un atome, on met un électron autour d'un noyau et il va toujours adopter la même forme. Le premier, on appelle ça, c'est un hydrogène, donc c'est une orbitale d'hydrogène, très bien. Donc la forme du nuage, on la connaît, c'est toujours la même. Puis quand on met un deuxième, il doit changer de forme, puis un troisième, il change de forme, etc. Mais ça veut dire que, quels que soient les atomes que vous regardez dans l'univers, le premier électron de l'atome, c'est toujours le même, quel que soit l'atome. Donc moi, quels que soient les atomes qui composent mon corps, je sais que si j'essaye de passer à travers autre chose, il contiendra lui aussi des atomes qui peuvent être différents, mais qui contiennent tous cet électron, ce premier électron qui est le même que dans mon corps et qui va s'exclure. Donc en gros, le truc des frères jumeaux, moi j'ai toujours un des deux frères jumeaux et n'importe quel autre atome dans l'univers a toujours l'autre frère jumeau, donc on s'exclut les uns les autres, donc on ne se traverse pas.
Ok. Donc, et juste pour revenir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce petit point de physique très basique, mais peut-être qu'il peut être nécessaire, le rappel, c'est donc il y a la molécule qui est l'élément le plus gros, l'atome, et ensuite l'électron, c'est ça hein?
Alors, si on le refait peut-être dans l'autre sens, hein, si je veux fabriquer de la matière, comment je fais? Je vais prendre des protons et des neutrons, donc c'est des trucs tout petits, très lourds. Je vais les mettre les uns à côté des autres et avec ça, je fabrique un noyau, donc un objet très dense dans lequel il y a énormément de masse. Une fois que j'ai ce noyau, c'est un objet qui est chargé positivement du point de vue électrique. Et donc autour, je peux mettre des électrons qui, eux, sont négatifs. Et alors quand je mets un électron autour de noyau, le premier truc qu'il devrait faire, c'est aller s'écraser sur le noyau parce que plus attire moins. Mais vu qu'il est quantique, lui, c'est un nuage, c'est pas une petite particule. Donc il occupe avec son nuage toute une zone autour du noyau. Donc vous imaginez un tout petit noyau positif au milieu et dès que vous mettez un électron, il fait un nuage autour. Si vous en mettez un deuxième, il fait un deuxième nuage qui est au même endroit que le premier, etc., etc. Et donc, un atome, c'est ça. C'est plein de nuages d'électrons autour d'un noyau. Et si vous mettez plusieurs atomes ensemble, c'est des molécules. Et c'est donc des atomes qui s'accrochent les uns les autres. Et après, avec ça, vous faites toute la matière qui est contenue dans l'univers, en gros.
Dont H2O, etc.
Dont H2O, dont nos corps humains, dont etc.
Très bien. Une question naturellement qui vient, c'est quelles sont les applications sur lesquelles on travaille désormais quand il s'agit de physique quantique ?
Alors d'abord, on continue de travailler sur les premières applications. Donc la quantique, en gros, je peux la diviser en trois temps. Premier temps, on comprend tout. On est dans les années 1920-1930. Deuxième temps, on invente. On est dans les années 50, 60, 70, 80. C'est ce qu'on appelle, nous, la première révolution quantique. Et on invente le laser, les LED, les métaux, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, toutes ces inventions, c'est des gros machins qui font la taille d'un centimètre ou d'un millimètre et qui contiennent des tas de particules quantiques. Okay. Deuxième révolution, c'est celle qui a lieu en ce moment. Donc, les deux choses qu'on fait dans cette deuxième révolution, la première, c'est continuer à travailler sur les trucs de la première révolution, c'est-à-dire à améliorer les lasers, les LED, parce que tout derrière tout ça, il y a par exemple les cellules photovoltaïques, il y a toute la chimie des matériaux, il y a toute la physique des solides. Donc, dès qu'on veut essayer de manipuler en gros des propriétés de matériaux, c'est de la physique quantique.
D'accord.
Et puis, il y a une nouvelle révolution qui a lieu en ce moment, depuis quelques années seulement, parce que depuis quelques années, on est enfin capable de manipuler les particules une par une. C'est-à-dire que jusque-là, le laser, le transistor et autres, c'était plein d'électrons ensemble parce qu'on ne savait pas les manipuler un par un. Donc, on se contentait d'en avoir des milliards de milliards dans le matériau qu'on regardait. Mais depuis quelques temps, on est capable de fabriquer et de manipuler un seul atome, un seul électron, une seule molécule, un seul photon, de le faire flotter dans le vide, par exemple, de le tenir au bout d'une pince laser, de jouer avec, de l'électriser, etc., etc. Donc là, on pourrait dire, c'est pas terrible parce que manipuler un seul objet, alors évidemment, on va pouvoir voir ses propriétés, confirmer qu'on avait tout bien compris avant avec la physique quantique, mais ça marche très bien. Mais on va pas faire grand chose comme application parce que c'est trop petit, trop léger. Alors non, en réalité, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire plein d'applications, ce qu'on appelle les technologies quantiques. Donc, en manipulant une seule particule, un seul atome, un seul photon, on va être capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Et alors là, si on essaye juste de catégoriser un petit peu, on va dire qu'il y a quatre trucs qu'on est capable de faire. C'est les quatre piliers de cette nouvelle révolution. Si je les caractérise, après on pourra revenir un peu dans le détail, mais en gros, on est capable d'inventer des nouveaux outils pour la communication, et notamment de cryptographie. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, on est capable de fabriquer des capteurs ultra sensibles qu'on ne savait pas faire avant et qui permettent soudain de mesurer des choses incroyables. Par exemple, on sait mesurer le temps, pas du tout comme avant, mais bien plus précisément. Ça permet de faire par exemple des GPS ultra précis ou des choses comme ça, ou de mesurer la gravité hyper précisément, donc les capteurs. Troisième truc, on est capable de calculer différemment. On s'est rendu compte que si on était capable de manipuler individuellement des particules quantiques, on pouvait s'en servir pour faire des calculs quantiques. Évidemment, ça se mord un peu la queue. Et en faisant des calculs, en utilisant la quantique, vu qu'on manipule les objets quantiques, on a une sorte de calculatrice quantique qui permet de faire certains calculs qu'on ne savait pas faire avant, bien plus vite et bien mieux. Et derrière ça se cache le rêve de l'ordinateur quantique. Donc l'idée de l'ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui ne se contenterait pas d'utiliser des transistors inventés par la quantique, mais à la fin, ça fait des 0 et des 1, mais qui utiliserait des 0 et des 1 quantiques. Donc, sans rentrer dans le détail, en gros, ce serait une machine qui permettrait de faire certains calculs, pas beaucoup, mais certains bien mieux que les ordinateurs actuels, et des calculs très importants. Et puis, le quatrième pilier, alors là, c'est encore plus étrange, c'est des simulateurs quantiques. L'idée, c'est que, en physique quantique, si vous essayez de comprendre un phénomène, vous pouvez faire plein d'expériences pour le mesurer, ça marche très bien. Par contre, si vous essayez de le simuler avec un ordinateur, de faire un petit programme qui le simule, ça marche pas du tout. Avec un ordinateur, je sais très bien simuler, par exemple, la chute d'un corps. C'est ce qui permet à tous les jeux vidéo de marcher et de dire ce qui se passe quand vous lâchez, une roche du haut d'une falaise dans Zelda. Eh bien, avec la physique quantique, si vous essayez de simuler ce qui se passe, l'ordinateur, il explose en vol parce que c'est trop compliqué pour lui. Les calculs explosent exponentiellement. Eh bien, on est capable maintenant de faire des espèces de simulateurs quantiques qui permettraient de faire ces calculs. Donc, en gros, qui serviraient aux physiciens de la quantique pour faire des calculs quantiques. Donc là, on se dit, OK, les mecs, ils se font plaisir. En réalité, derrière ça se cache peut-être une des révolutions les plus importantes des années à venir, parce que si on était capable de faire ça, soudain, on va être par exemple capable de simuler des réactions de chimie. Donc, on va être capable de simuler qu'est-ce qui pourrait faire un bon médicament. Qu'est-ce qui pourrait bien fixer le CO2 dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui pourrait aider à faire des engrais azotés qui coûtent moins à l'empreinte climatique. Et donc, si on était capable de simuler la matière, de simuler la chimie, on serait capable d'inventer des nouveaux matériaux et des nouvelles réactions chimiques pour aider tous les pans de l'industrie. De la médecine à la chimie, en passant par etc., etc. Et donc là, il y a des enjeux industriels énormes, et c'est ça qui fait qu'on entend beaucoup parler de quantique en ce moment, du côté des investisseurs, du côté des politiques, du côté de la tech, parce que derrière ça se cachent ces quatre piliers, la communication, les capteurs, le calcul et la simulation, qui pourraient chacun avoir d'énormes impacts industriels et technologiques.
Et alors, c'est marrant parce que vous parlez de deux choses qu'on a tendance à opposer dans le monde d'aujourd'hui, qui sont la cryptographie, et par cryptographie, j'entends la blockchain, et l'informatique quantique. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, bah, une fois qu'il y aura des ordinateurs quantiques, la cryptographie blockchain, en fait, on ne pourra plus lui faire confiance parce que les ordinateurs quantiques seront complètement capables de la détricoter, entre guillemets. Si je ne me trompe pas trop, il existe déjà des ordinateurs quantiques, non ? Il y a au moins... des choses chez Microsoft ou Google qui existent. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, les deux avancent à la même vitesse ou, enfin, comment...
Alors, il y a plein de trucs un peu contradictoires dans cette histoire-là qui est un peu compliqué. Alors, je vais essayer de vous la refaire simplement.
Ouais.
Si vous avez un ordinateur et que vous voulez transmettre des codes secrets par Internet, par exemple, ou des codes de carte bleue ou de la blockchain ou je sais pas quoi, tout le monde utilise à peu près pour l'instant la même façon de faire, c'est les nombres premiers. C'est-à-dire que vous donnez un très grand nombre à la personne à qui vous voulez donner le code secret et vous lui dites que ce nombre, c'est la multiplication de quelques nombres premiers. Donc lui, il sait comment le construire, ce nombre, et il sait les nombres premiers. Si quelqu'un d'autre arrive et découvre ce nombre, il est incapable de trouver les nombres premiers qui le composent parce que c'est un calcul mathématiquement impossible. Si vous donnez un nombre très grand, il n'arrivera pas à le faire, quoi. Avec 15, vous saurez dire que c'est 5 fois 3, mais avec un nombre à 128 chiffres, il ne saura plus le faire. Et donc la plupart des codes secrets marchent là-dessus. La physique quantique, l'ordinateur quantique, attaque ce problème de deux façons complètement opposées. Et c'est ça qui fait que les gens ont un peu des fausses idées. Il y a un premier truc, c'est qu'on s'est rendu compte que les ordinateurs quantiques, si ils fonctionnaient bien, permettraient de casser ce code secret de nombre premier. Ce qu'on appelle l'algorithme de Shor, on a montré théoriquement qu'un bon ordinateur quantique, si je lui donne cet énorme nombre, il sait très vite me dire quels sont les nombres premiers qui le composent, et donc il met par terre tous les codes secrets actuels. Et c'est ça qui fout la trouille à tout le monde. Alors, en réponse à ça déjà, à ce premier point, il ne faut pas avoir la trouille, en réalité, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas prêt d'avoir un ordinateur quantique qui sache faire ça. Le record actuel du meilleur ordinateur quantique qui ait su faire ça, c'est 15 égale 5 fois 3. Ils arrivent à faire ça et pas mieux. Donc, ils sont minables.
Okay, on est loin.
D'accord ? Et il y a des vraies difficultés techniques, on pourrait revenir dessus, très importantes, qui font que ça ne sera peut-être jamais faisable. On n'est même pas sûr que ça sera faisable un jour. Donc, si c'est faisable, ça ne sera pas avant des dizaines d'années et on n'est même pas sûr que ça soit un jour faisable. Mais surtout, entre-temps, les gens qui font les codes secrets ne se sont pas reposés. En 2017, la grande agence internationale des codes secrets et américaine, le NIST, a organisé une compétition internationale des codeurs en leur disant à tous les matheux et les informaticiens du monde, allez-y, utilisez toutes les techniques mathématiques que vous avez envie pour inventer des nouvelles recettes pour fabriquer des codes secrets qui résistent à l'ordinateur quantique, qui soient post-quantiques. Post-quantique, ça veut dire que ce n'est pas que les nombres premiers, c'est plus compliqué, de sorte que même un ordinateur quantique n'y arriverait pas, même s'il marchait un jour. Les types se sont mis au boulot. 3 ans après, ils avaient trouvé des dizaines d'idées. On a choisi des finalistes. Il y a tout un processus de tri par la communauté. Et maintenant, on a 3 finalistes avec 3 codes qui ont l'air très performants, qui résistent aux ordinateurs quantiques. Et où maintenant, les gens commencent, par exemple, l'agence de sécurité française, l'ANSSI, est déjà en train de préconiser comment déployer ces codes dans les 10 années à venir pour que d'ici 10 ans, on continue à utiliser les nombres premiers, mais on utilise aussi des nouveaux codes de crypto qui fassent que même un ordinateur quantique surpuissant ne pourra jamais les casser. Donc les gens sont déjà en train de se protéger de ça et je pense que ça ne sera pas un enjeu, plutôt ça sera un enjeu de redéployer des nouveaux codes secrets et les gens commencent déjà à mettre en place une stratégie pour dire que d'ici 10 ans on a déployé des nouveaux codes qui font que l'ordinateur quantique il sera eu, même s'il est super performant à ce moment-là, il n'y arrivera pas. Donc ça c'est le premier truc. Moi ce dont je parlais c'était autre chose en réalité. Parce que cet enjeu-là donc de code secret cassé par l'ordinateur quantique, c'est pour charrier à mon avis plein de fantasmes, mais ce n'est pas un des vrais enjeux de ces technologies-là. Il y a un autre truc, c'est indépendamment de ça, et c'est presque contradictoire, on sait, pas du tout avec l'ordinateur quantique, mais avec des grains de lumière, avec des photons, on sait fabriquer des codes secrets avec un ordinateur quantique. Et là, pour le coup, on sait fabriquer des codes secrets, pas du tout en utilisant les nombres premiers, mais en utilisant les lois de la quantique. Donc, on a une nouvelle méthode pour fabriquer des codes secrets. Donc, pas pour casser des codes, mais pour fabriquer des nouveaux codes secrets et qui sont inviolables d'une certaine manière. C'est-à-dire que s'il y a un espion sur la ligne, on le détecte.
D'accord.
Et donc, quand on parle de cryptographie quantique, c'est ça dont on parle. C'est des systèmes de fibre optique dans lesquels on va se partager des grains de lumière pour se construire ensemble un code secret que personne d'autre ne peut avoir. Donc c'est une façon de protéger ces données. Et quand on parle après d'ordinateur quantique, là c'est pour casser les codes secrets actuels. Vous voyez, il y a ces deux trucs différents. Et donc la cryptographie quantique, elle, c'est un sujet sur lequel travaillent plein de gens, parce que là ça donne envie évidemment, par exemple notamment aux militaires, hein, comment partager des codes secrets inviolables ou aux réseaux bancaires. Il y a déjà des sociétés qui commercialisent la solution sur des fibres optiques, sur des dizaines de kilomètres, on va dire. Elle pose plein de problèmes, cette solution, en réalité. C'est que techniquement, en fait, il y a quand même plein de manières de la violer et techniquement d'aller la décrypter et de la craquer. Donc, l'agence de sécurité, par exemple, française, elle recommande de ne pas utiliser ces trucs-là pour l'instant parce que ce n'est pas assez fiable. Mais il y a plein de gens qui cherchent à voir comment on peut utiliser la quantique pour faire des codes secrets.
Et alors, j'ai rapidement parlé de l'ordinateur quantique, mais qu'est-ce que c'est qu'un... Parce que bon, je pense que pour la majorité des gens, c'est pareil. Enfin, déjà, moi, je ne sais pas précisément le définir, clairement, et j'imagine que les gens qui nous écoutent non plus. C'est quoi un ordinateur quantique? Enfin, ça serait quoi, potentiellement, parce que ça n'existe pas, de ce que vous me dites? Je pensais que ça existait, moi, quelque part, qu'il y avait des...
Si, ça existe. Ça existe, mais d'accord. Ça marche mal. C'est-à-dire qu'ils sont tout pourris, okay. Les ordinateurs actuels. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, il y a plein d'ordinateurs quantiques dans le monde et qui sont tous, en gros, pour l'instant, non fonctionnels, on va dire, ou qui font des petits trucs, mais qui sont sans intérêt. Donc, c'est des prototypes pour essayer de progresser et d'arriver à faire un bon ordinateur un jour. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ordinateur quantique? Il faut recomprendre juste rapidement ce que c'est qu'un ordinateur pas quantique, déjà. L'ordinateur qu'on utilise, nous, tous les jours, c'est un objet qui manipule des 0 et des 1 et qui transforme tout en 0 et en 1. Tu fais des calculs avec ça, puis après, retransforme tout en signal audio, vidéo, texte, etc. Un ordinateur quantique fait presque la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser un 0 ou un 1, il utilise un objet quantique qui lui aussi peut être dans deux états, 0 ou 1, mais qui est capable de faire un truc en plus, il est capable d'être dans les deux états à la fois. Il est capable d'être à la fois 0 et 1. En physique quantique, un objet, un atome, par exemple, peut être dans deux états à la fois ou à deux endroits à la fois. D'accord ? C'est troublant, mais acceptons-le. Et donc, il y a des physiciens qui se sont dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour faire des calculs un peu originaux? La première réponse, c'est non, c'est complètement foireux, parce que si on mélange des 0 et des 1 n'importe comment, on ne sait plus ce qu'on fait. Alors oui et non, les gens se sont rendus compte que quand même, on pouvait faire certains calculs. Alors je vais essayer de vous donner un exemple de calcul, ça sera peut-être plus clair plutôt que de rester dans un truc très théorique. Alors il y a un problème qui est quasiment insoluble sur les ordinateurs normaux, c'est le problème du voyageur. Donc imaginez que vous soyez un voyageur, vous partez de Lille, vous voulez aller à Marseille, et on vous demande de passer par Nice, Rouen et Paris. Ok? Et on vous dit quel est le trajet optimum. C'est facile, vous allez sur SNCF Connect ou sur Google Maps, vous calculez les 5 trajets possibles en gros, et puis vous trouvez le meilleur. Si maintenant je vous rajoute une ville, je vous dis, je veux aussi que vous passiez par Caen, vous allez calculer, vous voyez qu'il y a deux possibilités en plus, etc. Mais à chaque fois que je vous rajoute une ville, ça multiplie par 2 le nombre de possibilités de trajets. Et donc, ça va assez vite ce truc-là. Et donc, en gros, les ordinateurs les plus puissants au monde ne savent pas faire mieux que 17 villes. Voilà, c'est le record du monde, parce que si on met 18 villes, ça augmente exponentiellement, c'est 2 puissance 17, 2 puissance 18, donc dès qu'il y a 20 villes, on ne sait plus le faire. Alors vous allez me dire, mais on s'en fout, on ne va jamais passer par 20 villes et chercher le trajet optimum. Alors c'est pas vrai, les gens qui travaillent dans le monde du fret, par exemple, ont des vrais problèmes logistiques comme ça. Donc c'est un vrai problème. Si je prenais un ordinateur quantique pour essayer de me dire quel est le meilleur trajet, comment il ferait? Alors ce que je ferais d'abord, c'est que je prendrais toutes les villes là et tous les trajets possibles, et je les mettrais dans ces espèces de 0 et 1 quantiques, je les coderais avec des 0 et des 1 quantiques. Et ensuite, si je lance mon ordinateur et que je le programme comme il faut, il va être capable, en quelque sorte, d'explorer tous les chemins à la fois. Vu qu'il sait se mettre à la fois dans tous les 0 et les 1 à la fois, il sait se mettre dans tous les états à la fois, donc c'est comme s'il y avait plein de voyageurs qui prenaient tous les chemins à la fois. Il fait une sorte de truc massivement parallèle, il explore tous les chemins à la fois, et il est capable de faire sortir la bonne solution. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous dire à la fin, chaque chemin c'est tant de kilomètres et on devrait trier, ça il n'est pas capable de le faire. Donc il ne fait pas vraiment un calcul parallèle, il teste pas tous les chemins. Il les teste en gros tous ensemble en parallèle et à la fin, il est capable de me faire sortir la solution et de me dire c'est cette solution et celle-là qui est la bonne. Je te dis rien sur les autres, mais je te dis que c'est celle-là qui est la bonne. Donc, il est capable de tester plein de situations en parallèle et de me faire sortir la bonne. Et pour faire ça, ça lui prend bien moins de temps qu'avec un ordinateur normal.
C'est comme une sorte de... Enfin, moi, la manière dont je le comprends, mais avec mon pauvre niveau de connaissance, c'est un peu comme de l'intelligence artificielle, quelque part.
Non, je verrais plutôt ça comme un ordinateur parallèle. Vous savez, un ordinateur, normalement, il fait les trucs les uns après les autres. Ouais. Mais si j'étais capable de lui faire plusieurs calculs en parallèle, c'est comme si je mettais plein d'ordinateurs ensemble et chacun fait un bout du calcul. Donc, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle. Il n'est vraiment pas intelligent, l'ordinateur. Mais si on sait le programmer intelligemment... Quand il y a des calculs qui demandent de tester plein de solutions différentes à la fois, lui, il est capable de vous faire sortir la bonne. Alors, il y a d'autres trucs qu'il est capable de faire de façon très puissante, par exemple, de factoriser avec des nombres premiers, ou voilà. Il y a certains algorithmes, certains trucs mathématiques qui demandent un temps infini sur un ordinateur normal et que lui serait capable de faire comme ça très rapidement. Donc, il permettrait de faire gagner du temps sur des calculs qu'en fait, on ne sait pas faire parce qu'ils sont juste trop longs et ils demandent trop de puissance de calcul pour faire. Donc, il ferait gagner de la puissance de calcul, il ne ferait pas gagner de l'intelligence. Il apprendrait pas tout seul, par exemple. C'est nous qui devons le programmer et lui dire « teste ces différents chemins ». L'intelligence artificielle, elle essayerait d'elle-même de comprendre ce que ça veut dire qu'un bon chemin et de se créer sa propre intelligence, en quelque sorte. L'ordinateur quantique, il est bête. C'est nous qui devons être intelligents pour lui.
D'accord. Une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, parce que vous avez dit, en fait, on est en train de révolutionner quelque part, ou en tout cas, c'était le dernier point, des matériaux, mais aussi comment on pourrait azoter les sols sans que ça coûte autant en carbone, etc., etc. Est-ce que vous pensez, parce que là on est clairement en pleine polycrise, dont une crise du vivant, que la technologie quantique, la physique quantique pourra, aider la technologie à résoudre au moins en partie les problèmes que l'on a face à nous?
Non. Alors, on va dire mieux, en toute petite partie. C'est-à-dire que moi, je me garde bien d'un discours technophile qui est de vous dire « les sciences vont résoudre le problème, ne vous inquiétez pas, on a des solutions miracles ». Ça n'est pas le cas, on va dans le mur, et c'est seulement avec un changement sociétal en profondeur et une révolution profonde de nos usages qu'on va arriver à sortir de cette crise. Ce que peut faire la quantique, à certains endroits précis, c'est aider un petit peu. Mais de la même manière, par exemple, que la science des matériaux va peut-être aider à améliorer un peu les cellules photovoltaïques, ou que l'ingénierie va aider peut-être à améliorer un petit peu comment fonctionne une éolienne ou comment stocker un peu d'énergie. Donc la physique quantique, elle peut aider à certains endroits. Vous avez pris l'exemple des engrais azotés, soyons très précis. Les engrais azotés, c'est quoi? La seule façon qu'on a de les faire actuellement, c'est d'utiliser un procédé qui s'appelle le procédé Haber-Bosch avec des usines énormes dans lesquelles on chauffe à un moment donné la matière à 500 degrés. Et c'est ça qui coûte de l'énergie. Si on avait un ordinateur quantique, on serait peut-être capable de trouver la bonne réaction chimique pour ne plus avoir besoin de chauffer. Donc on économise les 500 degrés de l'usine. Donc vous voyez, on n'est pas en train de révolutionner le monde entier. Avec ça, on gagne quand même 1 ou 2% de la facture CO2 mondiale. Donc on peut avoir des impacts énormes à l'échelle de la quantique, mais petits impacts à l'échelle de l'humanité. Autre exemple qui a déjà été fait grâce à la quantique, les LED. C'est la quantique qui a permis d'inventer les LED blanches notamment, qui ont remplacé la plupart de nos éclairages actuels et qui ont permis d'économiser considérablement sur notre empreinte énergétique liée au moins aux ampoules électriques, qui avant perdaient 95% en chaleur et qui maintenant sont presque à 100% efficaces. Donc, on peut, à certains endroits précis, aider avec la physique quantique. Donc, il faut continuer à étudier ces solutions quantiques pour qu'elles aident à la marge. Mais il ne faut surtout pas se réfugier derrière en se disant « Mais c'est bon, là, les physiciens de la quantique vont nous trouver des solutions, arrêtons de nous prendre la tête. » Ça ne résoudra qu'à la marge certains petits trucs et ça nous aidera un peu, mais ça ne peut pas être une fuite en avant en se disant « La technique va nous aider à résoudre ça, ne nous prenons pas la tête du point de vue sociétal. » L'autre raison, je pense, elle est importante, c'est l'échelle de temps. On oublie l'échelle de temps en recherche, donc je vais vous la donner. On peut voir sur toute l'histoire de la science et notamment toute l'histoire de la quantique depuis 120 ans, donc on a maintenant un bon recul, que entre la découverte en labo d'un concept original et son application industrielle, il y a toujours grand minimum 10 à 20 ans. Grand minimum. D'accord? Donc si on découvrait maintenant une technologie quantique hyper révolutionnaire, incroyable, par exemple, qui permette de faire du procédé Haber-Bosch, d'ici à son application industrielle, quoi qu'il arrive, il nous faut 10 à 20 ans. Donc c'est déjà trop tard. Donc la très courte échéance qu'on a face à nous qui fait qu'on doit changer radicalement nos sociétés et nos modes de vie, on n'y échappera pas grâce à la quantique. Et ça, je vais être très clair là-dessus.
Ok, c'est très clair. Quand vous parlez d'atomes, et comme on parle d'énergie, ça me fait penser à l'énergie de fusion, si je ne me trompe pas. C'est fusion ou fission? Parce qu'en fait, l'énergie nucléaire...
Il y a un peu de tout.
L'énergie nucléaire...
Alors, façon, faire de l'énergie nucléaire, on peut le faire par fusion ou par fission, en fait.
C'est ça. Mais il y en a une des deux qui est une sorte d'énergie infinie. On reproduit l'énergie du soleil. C'est ça, si je ne me trompe pas trop.
Pour le faire vite, actuellement, l'énergie nucléaire telle qu'on l'utilise, les centrales nucléaires, c'est de la fission. C'est-à-dire on prend un gros atome et on le casse en deux, de l'uranium, par exemple, et en le cassant en deux de façon astucieuse, on peut récupérer de l'énergie. Il y a une autre manière de récupérer de l'énergie, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire assembler deux atomes pour créer un gros atome. Donc là, on va plutôt dans les atomes très légers, de l'hélium, du déthérium, de l'hydrogène. Et donc, c'est ce qui se passe, par exemple, dans le Soleil. Le Soleil, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il va assembler des molécules pour créer de la lumière et de l'énergie. Et donc, un des rêves des physiciens, c'est de contrôler la fusion en laboratoire pour avoir un petit Soleil.
C'est ça.
Et c'est très intéressant parce qu'on n'a plus de problème de stockage d'uranium et tout semble très bien. Et d'ailleurs, ITER qui travaille beaucoup là-dessus en France. Alors moi, pour moi, c'est pas une solution. Voilà, je vais être un peu radical là-dessus. Ça n'est pas une solution pour plein de raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes techniques qui se posent très concrets. Par exemple, la résistance des matériaux des murs du laboratoire dans lequel on fait ça. Parce qu'on doit faire un plasma en fusion à plusieurs dizaines de millions de degrés qui crache plein de particules dans les murs, qui endommagent les murs. Et les murs doivent être faits en supraconducteurs et les supraconducteurs ne supportent pas les défauts. Voilà. Et on n'a toujours pas trouvé de supraconducteurs qui résistent à ça. Donc, il y a plein de problèmes techniques majeurs dont on n'a pas encore trouvé l'ombre d'une solution pour faire fonctionner cette espèce de centrale nucléaire de fusion. D'accord? Et donc actuellement, c'est un travail de recherche, passionnant du point de vue de la recherche. Est-ce qu'on arrive à contrôler la fusion et à l'utiliser? Mais de là à arriver à en prendre de l'énergie utile pour le grand public, à faire en gros des centrales nucléaires à fusion, il faudrait grand minimum, tous les experts sont d'accord là-dessus, tous les gens qui travaillent là-dedans sont d'accord là-dessus, 30 à 50 ans. Mais grand minimum. D'accord? Et moi, à mon avis, c'est plus. Parce que je pense qu'il y a des problèmes même pas encore résolus. Et pareil, 50 ans, c'est trop tard. On ne peut pas attendre 50 ans pour avoir ces objets-là. Donc, il faut dès maintenant faire avec les énergies qu'on a. Et en gros, le point, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle que vous proposera la quantique pour résoudre les problèmes à courte échéance. Et donc, on n'échappe pas aux problèmes actuels. Et tous les gens qui vous feront croire que la fusion, ça serait une solution d'avenir pour l'énergie, à mon avis, vous trompent.
Il y a ça et puis l'hydrogène, dont on parle beaucoup en ce moment.
Mais qui est encore un autre enjeu.
Qui est encore un autre enjeu.
Mais là aussi, à un moment donné, pour produire l'énergie, il faut à nouveau produire de l'électricité. Donc on repousse d'un cran, en gros, tous ces problèmes-là. Hein. De la même manière qu'on dit, on va faire des biocarburants pour les avions, etc. Mais chaque fois, on repousse d'un cran le fait qu'il faut produire de l'énergie et que ça, quand même, ça coûte toujours quelque chose. Hein. La physique nous l'apprend très, très bien, de l'énergie utile. Et que donc, à un moment donné, si on fait des bilans énergétiques un peu comme le fait Jean Covici ou autre, eh ben, on se rend compte qu'on va dans le mur et qu'on n'a pas de solution miracle. J'insiste là-dessus parce que parfois les gens manipulent ça et font croire que la science va tout résoudre parce qu'elle a toujours tout résolu dans le passé. Mais là, ça n'est pas le cas. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est la science elle-même qui le dit. C'est-à-dire que des calculs énergétiques assez simples de base permettent de comprendre qu'on va dans le mur au rythme actuel et qu'il n'y aura pas de solution miracle scientifique qui permette de le résoudre.
Je discutais avec un anthropologue qui me disait que cette croyance en la technologie, c'était justement une croyance, en fait. Et comme il y en a plein d'autres, des croyances, et que du coup, effectivement, ça n'allait pas résoudre tous les problèmes.
Et elle a de bonnes raisons d'exister, cette croyance, parce que ça a quand même bien marché jusque-là.
Ah, bien sûr.
Je veux dire, les miracles scientifiques qu'a accompli la science et l'ingénierie depuis 100, 150 ans à remplacer, en gros, les esclaves par du pétrole, ont fait faire des progrès à la société absolument hallucinants, ont fait faire des progrès à nos modes de vie, etc., incroyables, et qui font qu'on se dit, mais ça a très bien marché jusque-là, ils vont bien nous trouver un truc. Et la réponse très claire, c'est non. Et je peux le dire en tant que scientifique, en tant que physicien, en tous les cas, je peux vous le dire depuis mon champ d'expertise qui est la quantique. La quantique ne va pas résoudre de façon miraculeuse les problèmes auxquels on est confronté dans les années à venir.
Ok, très clair. J'aimerais bien savoir c'est quoi les questions qu'on ne vous pose pas sur la quantique et que vous aimeriez bien qu'on vous pose quand il s'agit de vulgarisation, évidemment. Je ne vous parle pas de discussion entre physiciens parce que je pense que vous allez nous perdre très rapidement. Mais sur des questions simples, c'est quoi les questions qu'on ne vous pose pas et que vous aimeriez bien qu'on vous pose?
C'est compliqué parce qu'en fait, bizarrement, on me pose toujours des très bonnes questions. C'est-à-dire que les questions un peu naïves, comme celles que vous avez posées, mais pourquoi on est transparent, mais pourquoi machin, etc., sont d'excellentes questions, très profondes. Donc moi, je trouve, ça fait peut-être un peu démago, mais je trouve qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Et je peux dire, pour l'avoir expérimenté depuis des années dans tous les contextes possibles, avec des scolaires, avec du grand public, etc., etc., qu'à chaque fois, les questions sont quand même très bonnes. Alors, les questions qui m'agacent un petit peu, et ça va expliquer les questions que j'aimerais plus avoir, c'est... quand même très naturellement, et c'est bien normal, les gens vont toujours poser plein de questions sur des choses un peu mystérieuses. Et plus une théorie a l'air mystérieuse, plus les gens vont même poser des questions. La théorie des cordes, la théorie des multivers, etc., etc. Alors que c'est des choses assez marginales en réalité dans les vraies questions scientifiques qu'on se pose actuellement. Et il y a des questions bien plus simples qu'on se pose, auxquelles on ne sait pas répondre et auxquelles les gens ne pensent pas parce qu'ils ne savent même pas que c'est des questions possibles. Et en particulier concernant la matière. Il y a un certain nombre de matériaux dont on ne comprend absolument pas comment ils fonctionnent. Je vous donne un exemple. J'ai moi-même pendant 20 ans de ma vie, 20 ans, hein, travailler à essayer de comprendre les supraconducteurs. Donc, c'est des espèces de galettes noires qui font flotter des aimants, qui ont des propriétés remarquables, qui font circuler le courant parfaitement. Les supraconducteurs à haute température, une catégorie de supraconducteurs. On ne comprend pas comment ça fonctionne. On ne comprend pas pourquoi ils font flotter des aimants. Et c'est une question qui, quand même, on voit le truc. Je peux faire l'expérience sur le coin d'une table, on voit un aimant qui flotte au-dessus d'un supraconducteur, ça marche très bien, c'est hyper simple, ça fait 1 cm³. Et on ne comprend pas pourquoi. Et pourtant, c'est pas un problème qui est si compliqué que ça, parce que dedans, c'est une structure d'atomes très simple, c'est des cuivres et des oxygènes qui forment des carrés. Il y a des électrons qui se baladent dedans. Donc, ça devrait être le plus simple des métaux. Et c'est un des problèmes les plus compliqués de la physique quantique actuelle. Mais personne dans les questions va me dire « Mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas les céramiques, en gros, à base de cuivre et d'oxygène ?» Parce que les gens ne savent même pas que c'est un problème. Donc, pour moi, c'est la faute plutôt de notre communauté à nous qui adorons mettre en avant, peut-être aussi parce que c'est médiatique, des problèmes très ésotériques, le chat de Schrödinger, la théorie des cordes, les univers parallèles, et qui oublions de parler de problèmes bien plus concrets, mais tout aussi intéressant scientifiquement et tout aussi profond et tout aussi troublant que sont par exemple pourquoi un aimant est un aimant, pourquoi un matériau lévite au-dessus d'un autre matériau et des trucs à l'échelle humaine. Et moi qui suis donc physicien des solides quantiques, c'est ça qui m'intéresse moi, j'adore ramener les gens à ces questions-là en leur disant mais vous posez des grandes questions sur les théories de l'univers, mais est-ce que vous avez déjà compris la chaise sur laquelle vous êtes assis? Et voilà, et donc dire aux gens qu'en fait, il y a autant de mystères dans des petits objets qu'on peut tenir dans le creux de la main que dans tout l'univers et qu'il n'y a pas un mystère qui est moins bien qu'un autre.
C'est hyper intéressant, et ce que vous disiez, c'est vrai que quand on évolue un petit peu dans les sphères du développement personnel, entre autres, on parle beaucoup de physique quantique, et ce que vous disiez, c'est que ça, c'est des questions qui vous ennuient un petit peu, pour le coup.
Ah oui, alors dans les questions que j'aime pas, celles que j'aime le moins ou qui me mettent le plus mal à l'aise, c'est toutes les questions qui vont sortir du champ des sciences. Donc les questions qui vont avoir à faire avec la croyance, croyance sur Dieu, bien sûr, parce qu'il y a plein de questions, évidemment, sur Dieu et la science, et plus généralement, toutes les questions sur les pseudosciences et aussi toutes les questions sur les médecines parallèles. Alors la raison à ces questions, elle est totalement légitime, c'est qu'il y a plein de gens qui utilisent la physique quantique pour prétendre soigner, pour prétendre développer de la conscience, faire du développement personnel, etc., etc. Ils vont utiliser tout le vocabulaire de la quantique pour ça. Et donc, moi, il y a plein de gens qui viennent dans mes conférences, par exemple, ou sur Internet pour me poser des questions. Est-ce que notre conscience est quantique ? Est-ce qu'on est intriqué avec l'univers ? Est-ce qu'on pourrait se soigner avec des ondes quantiques ? Est-ce que notre corps lui-même a des niveaux quantiques, fait des sauts quantiques, etc., etc. Donc, pour moi, les gens sont tout à fait légitimes à poser ces questions-là. D'abord parce qu'ils se les posent eux-mêmes et que c'est des bonnes questions. Genre, si on pouvait se soigner avec la physique quantique, ça serait classe. Mais aussi parce qu'il y a tout un tas de gens derrière qui jouent avec ces concepts de façon très astucieuse pour créer du faux. Donc moi, mon travail là, c'est d'essayer de déconstruire ces pseudo-sciences et ces charlatans, en gros. C'est les charlatans, ils utilisent toujours la même recette, en gros, qui est une recette qui est utilisée depuis des centaines d'années dans toutes les sciences. Hein, la quantique n'est pas spécifique en ça. C'est qu'ils vont utiliser tout ce qui a l'air scientifique pour faire comme si c'était scientifique. Ils vont utiliser le vocabulaire de la quantique. Alors, les mots qui vont revenir, c'est les énergies, le biofeedback, les résonances, les niveaux quantiques, les sauts quantiques. Ils vont essayer de mettre le mot quantique un peu partout. Ils vont manipuler tout ça avec des graphiques qui vont souvent avoir l'air scientifique. Donc, quelque chose qui a l'air d'être de la science, alors qu'en réalité, ça n'a aucun fondement scientifique. Ils utilisent souvent des concepts qui, soit ils ne maîtrisent pas eux-mêmes, soit avec lesquels ils trichent en sachant bien que ça ne veut rien dire à cette échelle. Et il y a des arguments scientifiques simples pour les débobiner à chaque fois. Mais ils vont jouer avec ça. Et ils vont surtout jouer avec un truc qui m'agace particulièrement, c'est en disant, mais vous savez, c'est très mystérieux, mais vous inquiétez pas, les physiciens quantiques eux-mêmes ne comprennent pas bien ce qu'ils font, parce que c'est un domaine très mystérieux. Et là, ils jouent sur une ambiguïté de base qui est que c'est très mystérieux parce que ça échappe à notre intuition. Moi, je vous parle d'une onde quantique, ça a l'air hyper mystérieux, mais c'est juste parce que ça échappe à notre intuition. C'est pas mystérieux du point de vue de la science, parce qu'on comprend les lois, on comprend comment ça marche, on sait même prédire comment ça marche, on sait même l'utiliser pour inventer. Et là, moi, je ramène toujours aux ondes radio. Je dis aux gens, mais regardez, au 19e siècle, quand on découvre les ondes radio, c'est quand même un truc magique, les ondes radio. Je veux dire, c'est invisible, ça va avec la vitesse de la lumière, ça nous traverse et ça arrive jusqu'à notre poste radio depuis la Tour Eiffel. Un truc hallucinant. Et donc, je pense qu'à l'époque, déjà, les gens se disaient, mais les ondes radio, c'est magique. Et il y a tout un tas de médecines de charlatans, d'ailleurs, qui utilisaient les ondes radio pour vous soigner de tout et n'importe quoi, parce que ça avait l'air mystérieux. Maintenant, ça nous semble plus du tout mystérieux parce qu'on utilise notre téléphone portable tous les jours. Ben, je pense que la quantique, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il faut s'habituer à comprendre ce qu'est la quantique, ce qu'elle dit du monde qui nous entoure, mais pas obligatoirement lui raccrocher une espèce de mystère avec tout ce charabia qui, lui, ne veut plus rien dire du point de vue scientifique.
Ok, très clair. Une question que je me pose aussi, qui est très d'actualité, c'est la confiance dans la science. C'est-à-dire que ce détachement, c'est très étrange. C'est-à-dire qu'on a une sorte, et c'est une contradiction, mais on a une sorte de confiance infini dans la science va nous sauver, voilà cette idée que la technologie va venir trouver des solutions. Et dans le même temps, et on l'a vu en particulier pendant le Covid, une défiance dans la science, mais qui est à mon sens un peu liée à la profession, c'est-à-dire qu'en fait on a des chercheurs, des chercheuses qui viennent dire tout et son contraire sur des plateaux de télé et du coup qui mettent le doute quelque part. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur, alors c'est pas une question sur la quantique, plus c'est vraiment plus largement sur les sciences, comment on fait pour, enfin à votre avis hein, bien sûr, comment on fait pour reconnecter les individus finalement, les Français, avec la science?
Ouais, c'est une vaste question très compliquée. D'abord, on met plein de choses derrière le mot science. Derrière le mot science, ça peut être les concepts scientifiques, ça peut être la méthode scientifique, ça peut être la recherche, ou ça peut être les applications. Quand même, souvent, ce avec quoi les gens ont des problèmes, c'est avec les applications de la science. Et donc, évidemment, et là, pour le coup, le côté technophile peut être redoutable. Et donc, souvent, ce avec quoi les gens ont des problèmes, c'est plus les applications de la science que la façon dont la science se fait elle-même. Après, la science, c'est quoi? C'est en gros une méthode qu'on s'est donnée, nous, humains, pour essayer de partager ensemble de la connaissance et de construire ensemble de la connaissance un peu robuste, un peu solide, qui ne dépendent pas justement de nos croyances, de nos origines, etc., etc. Et on s'est inventé des façons de se vérifier entre nous et d'arriver à construire progressivement une connaissance commune. C'est quand même quelque chose d'assez beau, hein, collectif. Mais évidemment, quand on est aux avant-fonds de cette science, donc dans la recherche contemporaine, et qu'on regarde les toutes dernières découvertes, on est dans ce moment où c'est en train de se construire, c'est pas encore stabilisé. Et donc, évidemment, il n'y a que du doute. Nous, notre boulot, c'est le doute. Mon boulot à moi, quand je fais de la recherche, c'est essayer de voir si les collègues ont raison ou tort, c'est essayer de tester, c'est essayer moi-même d'inventer, c'est essayer de... Voilà. Et c'est cet échange qui fait que progressivement, on va se stabiliser et trouver finalement que tel truc tient au cours du temps, etc. Le problème, c'est que ce travail-là se joue sur une échelle de temps qui est longue. C'est pas l'échelle de temps des réseaux sociaux, c'est pas l'échelle de temps des médias, c'est une échelle de temps où on a besoin de faire des expériences qui prennent des années. Ensuite, d'aller tester celle des collègues, ensuite de se confronter, de s'affronter, de faire des échanges et finalement de stabiliser ça au bout de 10, 15, 20 ans. Ce qui nous a posé aucun problème dans l'histoire des sciences précédentes, mais qui fait que soit quand on est face à une crise à temps très court comme le Covid, soit quand on est dans, disons, une ambiance médiatique à temps court, ben on comprend plus ce temps long de la recherche. On dit aux chercheurs, vous vous foutez de nous. Il y a 6 mois, vous nous avez dit un truc, maintenant vous nous dites le truc inverse. Mais nous, 6 mois, c'est ridicule, c'est un jour à l'échelle du temps de la science. Si nous, au bout de 1 an, on a déjà réussi à stabiliser un truc, par exemple les vaccins anti-Covid, c'est miraculeux. Donc, il faut arriver à expliquer aux gens l'échelle de temps pour construire des connaissances scientifiques et aussi comment on les construit. Alors moi, c'est un truc auquel je travaille personnellement. Hein. Moi, j'ai monté une équipe de recherche, ça s'appelle La Physique Autrement, où on travaille précisément là-dessus. Comment essayer de trouver d'autres façons de présenter la science, en particulier la physique, ou de l'enseigner à nos étudiants, qui non seulement les aident à comprendre la science, qu'ils y prennent plaisir, que ça soit un peu moins rébarbatif que la façon qu'on a de faire d'habitude, hein, bien sûr, mais aussi essayer de leur expliquer le processus, la façon dont ça se fait, essayer d'utiliser aussi l'histoire des sciences, essayer d'utiliser l'épistémologie, pour essayer de faire comprendre aux gens un peu ce qu'est la science et comment elle se construit. Parce qu'une fois qu'on a vécu, par exemple, dans un laboratoire, qu'on a fait un stage, qu'on a un peu étudié ça, on comprend. On comprend que le chercheur, 6 mois après, il n'est plus exactement la même opinion sur un truc très récent. On comprend l'échelle de temps, on comprend les débats et on comprend à un moment donné les consensus. On comprend aussi que quand il y a un consensus à l'échelle d'une très grosse communauté, c'est pas pareil qu'un type tout seul comme Didier Raoult contre le reste du monde. Que le GIEC, ça a une vraie force parce qu'on sait comment les gens travaillent ensemble. Donc, essayez d'expliquer aux gens la façon qu'on a de travailler et de construire ces connaissances. C'est pas arbitraire, c'est pas seul contre tous et c'est pas complètement flottant. Mais c'est sur une échelle de temps qui échappe aux gens.
Et peut-être que il faut réexpliquer ce que c'est que le consensus scientifique. Je suis pas certain parce que c'est un mot que quand on est scientifique, forcément, on l'utilise et ça a beaucoup de sens. Mais quand on n'est pas dans le domaine scientifique et qu'on nous parle de consensus scientifique, on se dit ça peut être 15 mecs qui se sont mis d'accord et qui ont en fait les mêmes intérêts.
Oui, exactement. On a l'impression que c'est un truc hyper mou, quoi. C'est parce qu'on connaît bien le consensus d'habitude. Si on se met autour d'une table et bon, allez, on se dit tous d'accord parce que ça nous arrange bien et voilà. Alors en fait, on oublie que le consensus scientifique, il arrive après une période de débat et de combat terrible. C'est-à-dire que la première étape des scientifiques, c'est surtout pas le consensus. C'est essayer de montrer que l'autre a tort ou que la loi ne marche pas. C'est-à-dire quand on va nous balancer une nouvelle loi en disant ça, ça a l'air de marcher comme ça, le job du scientifique, c'est essayer de trouver l'erreur, essayer de trouver l'exception. Et on va passer notre vie à ça, à essayer de montrer que ce qu'on pensait être vrai n'est pas vrai. Et si au bout d'un certain temps, tout le monde a essayé de toutes les façons différentes, en testant bien que chacun avait essayé de la bonne façon, de la bonne méthode, etc., etc., et que la loi a l'air de résister, eh ben il y a un consensus scientifique, c'est-à-dire, bon, à preuve du contraire, on va tous se mettre d'accord qu'elle a l'air de vraiment bien résister, cette loi. Mais ce qu'on va d'abord faire, c'est comme un punching ball, c'est lui donner des coups de poing dedans pour essayer de voir si elle résiste. La physique quantique, c'est un bon exemple. Les premiers types qui arrivent et qui disent la matière, c'est comme une onde, personne n'y croit. Évidemment. On n'est pas là en disant, oh, consensus, on va se mettre d'accord. On commence à faire des expériences et on se rend compte, ah bah oui, tiens, effectivement, quand on envoie un électron sur un cristal, il a l'air de rebondir comme une onde. Et puis on a l'air de même pouvoir l'utiliser dans un microscope comme si c'était de la lumière et c'est le microscope électronique. Et puis on a une autre expérience indépendante qui a l'air de pouvoir même manipuler, faire interférer ces ondes, etc., etc. Et petit à petit, toutes ces petites briques se mettent ensemble. Dans les conférences, les gens, il y a ceux qui tenaient en disant mais non, c'est pas une onde, ceux c'est une onde. Et puis ils sont de plus en plus petits nombres. Et puis les débats continuent, les arguments. Et puis c'est pas des débats où c'est au feeling. Oh bah moi je te dis que c'est une onde parce que j'aime bien les ondes. Il faut argumenter. Il faut des raisons scientifiques, il faut avoir fait une expérience qui le montre. Et l'autre va nous dire, mais ton expérience, est-ce qu'elle est vraiment précise ou pas? Et on va combattre, argumenter, etc., etc. Et à force, petit à petit, on va se rendre compte que, bah oui, quand même, c'est une onde et il n'y a plus le choix. Et là, on va se mettre à l'enseigner. Et donc, ce processus-là, il est remarquable parce qu'il permet de construire, disons, des vérités scientifiques. C'est-à-dire quelque chose qui a un socle bien plus solide que juste une vérité subjective d'une personne à un moment donné. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Et que ça prend un certain effort, et que c'est une certaine méthode, et qu'il faut tous suivre un peu la même méthode, le même langage pour pouvoir partager entre nous. Donc c'est une merveilleuse façon de construire la connaissance, à mon avis c'est la meilleure. C'est ça qui fait que le GIEC est aussi puissant, c'est parce que la façon qu'il a de construire les connaissances, elle est pas arbitraire, elle est hyper forte, en utilisant toutes les données scientifiques qui existent, mais elle est longue, et elle est aussi compliquée à vulgariser et à expliquer. Et ça fait que les gens, quelqu'un qui a du bagou et qui arrive et qui passe bien à l'antenne, il va bien plus convaincre les gens en disant « moi j'ai trouvé ça et tous les autres sont contre moi parce que c'est une mafia de scientifiques » qu'un groupe de 500 chercheurs qui se sont réunis 8 fois en conférence pour au tableau noir arriver à débattre et à finalement arriver ensemble à une connaissance.
Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on vous dit dans les médias en particulier qu'il y a consensus scientifique, c'est qu'a priori, c'est très robuste en fait.
Ouais, c'est que c'est incroyablement plus robuste qu'un consensus politique, par exemple. C'est que vraiment, il y a très peu de chances pour que ça soit remis en cause. Et là, on peut regarder l'histoire des sciences, parce que les gens nous disent toujours « Oui, mais il y a déjà eu des consensus dans le passé, et soudain, une personne est sortie, il a dit « c'est pas vrai » et il a tout mis par terre. » Eh ben, c'est faux. Dans l'histoire de la physique, moi, je connais pas d'histoire comme ça. Il y a eu un consensus, par exemple, à la fin du 19e siècle, pour dire que la mécanique classique, ça marchait, et que Newton, ça marchait. Einstein est arrivé et a dit « Mais attendez, la théorie de la relativité. » Mais la relativité, elle ne met pas du tout partir Newton. Elle dit juste que quand un objet va très vite ou qu'il est énorme, il y a des petites corrections en plus qui font que les lois de Newton ne marchent plus tout à fait. Mais tout ce qui avait été compris avec Newton reste parfaitement vrai depuis 400-500 ans. Un consensus scientifique, à un moment donné, c'est incroyablement robuste.
D'accord. C'est, enfin, pour moi, c'est vraiment important de le rappeler parce que c'est vrai que il y a tellement de challenges, particulièrement parce qu'on est dans une société bah, en crise. Je pense que c'est le
et
terme.
Et puis on est dans une société qui aime bien le Robin des Bois, quoi, qui aime bien le héros solitaire qui vient contre l'institution et qui dit vous avez tous tort et moi j'ai trouvé un truc seul. C'est quand même hyper séduisant. Et puis dans plein de cas politiques et autres, ça s'est révélé être remarquable, hein, un Snowden ou un machin, etc., etc. Seul contre tous, c'est merveilleux. Mais en science, quand on voit comment le monde scientifique est construit, qui n'est pas un monde construit avec des votes, avec de la démocratie, ou qui est construit qu'à base de connaissances, cette image du loup solitaire face à la meute ne tient pas une seconde quand on le connaît de l'intérieur. Mais je comprends que les gens ne nous croivent pas sur parole et se disent, mais eux aussi, ils ont des mafias locales, eux aussi, ils ont
ils
des intérêts, etc.
Labos,
ils ont raison de nous remettre en cause. C'est à nous de faire ce job. Donc, il y a un travail de vulgarisation à faire, bah, qu'on a bien vu au moment de la crise Covid, à quel point il a échoué pour l'instant, d'expliquer aux gens que la science, c'est pas la même chose que d'autres connaissances. C'est pas la même chose que la façon de construire, bah, par exemple, de l'art ou de la religion. Il y a quand même une espèce de truc collectif un peu particulier dans la science qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
Alors, claquer la porte, c'est facile. Hein. C'est justement à toutes les formes de charlatanisme et de croyances en héros solitaire contre le reste de la science, qui m'ont épuisé notamment à l'heure du Covid. Ce à quoi j'aimerais ouvrir la porte. Alors nous actuellement, on a un vrai problème en physique, notamment, je pense, pour l'enseignement de la physique, qu'on a gardé comme depuis à peu près 200 ou 300 ans, hein, qui marchait très bien jusque-là, mais qui maintenant marche moins bien pour plein de raisons. L'une d'entre elles, c'est que le public qu'on a face à nous, d'abord, tient moins longtemps face à des cours, des TD, des TP sur paillasse et autres. Et l'autre raison, c'est la raison du sens. C'est qu'à un moment donné, les jeunes, en ce moment, ils ont besoin de sens, et en particulier, de sentir qu'ils font partie d'un combat contre la crise climatique. Et si je leur dis juste, moi, je vais jouer avec des atomes et m'amuser dans un laboratoire, ils peuvent à un moment donné se dire... C'est chouette, tu t'amuses bien, mais ça va pas beaucoup m'aider, moi, pour résoudre les problèmes de notre société qui, moi, vont me toucher particulièrement. Et donc, voilà, moi, ça, c'est un combat que j'essaye dont j'essaie de m'emparer en ce moment avec mon équipe. On essaie de trouver des nouvelles façons d'enseigner. Et ce à quoi j'ouvre la porte en ce moment, c'est ça. C'est comment essayer de ramener de la créativité, du plaisir, mais aussi une forme d'action, de dire aux gens qui peuvent agir eux-mêmes, face au climat notamment et face aux crises à venir, en utilisant, entre autres, les sciences, mais pas seulement. Et la façon qu'on a, nous, de faire, c'est de ramener le design là-dedans. C'est-à-dire de mélanger des designers, des scientifiques, du design de la science, parce que le design, il a vraiment cette question de l'usage, cette question de l'objet, cette question de la technique, cette question de comment agir sur le monde. Et si on apporte à ça, en plus, un regard scientifique, qu'on arrive à mettre les deux ensemble, à mon avis, on peut arriver à avoir des choses originales, au moins pour apprendre aux jeunes à eux-mêmes s'emparer du monde et à trouver des solutions que nous-mêmes, on ne trouvera peut-être pas.
Et ça, c'est un point hyper intéressant, effectivement, parce que je crois qu'on a besoin aussi de mélanger des métiers qui, a priori, ne se touche pas, typiquement la biologie et pourquoi pas la physique quantique, pourquoi pas la biologie avec voilà, d'autres choses.
Il y a une grande mode de l'interdisciplinarité et qui est complètement justifiée. Je me méfie juste un tout petit peu d'un certain type d'interdisciplinarité où on essaie de dire aux gens, vous allez tout apprendre et vous allez devenir formidable. Moi, je crois beaucoup à l'interdisciplinarité où on a des experts hyper, pas du tout interdisciplinaires pour le coup, monodisciplinaires de leur domaine, mais qu'on arrive à les faire travailler ensemble. Moi, je fais ça depuis 10 ans avec les designers, par exemple, et là, ils sortent des choses intéressantes, mais je travaille avec des gens hyper forts en design. Moi-même, je suis bon en physique. Et donc, ensemble, on arrive à faire des choses originales. Donc, moi, je crois beaucoup à l'idée, notamment pour les générations futures, de continuer à les former bien dans certains domaines pour qu'ils aient une vraie expertise, mais de leur apprendre à bosser avec d'autres personnes de façon interdisciplinaire pour construire ensemble des choses qu'ils ne construiraient pas dans leur champ à eux.
Super. Merci beaucoup, Julien. C'était passionnant, c'était surtout très clair. Donc, merci beaucoup pour ça.
De rien.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !